Allons au bout de fil. Martin est avec nous. Bonsoir, Martin.
Hey, bonsoir, bonsoir Jérémy.
Martin, je veux qu'on débute avec Martin Madden Jr., oui. qui a été nommé DG adjoint chez les Ducks d'Anaheim. Il était avec nous voilà quelques instants. Voilà une bonne nouvelle pour un gars qui commence à avoir beaucoup de métiers dans la Ligue nationale de hockey.
Pas mal. Lui, il a gravi vraiment tous les échelons. Évidemment, il a baigné là-dedans à un très jeune âge, là, parce que son père, Martin, on le sait, a fait une longue carrière dans la Ligue nationale comme recruteur, comme évidemment directeur général, comme tu l'as dit, avec les Nordiques il y a quelques années. Mais Martin a grandi dans un environnement hockey. Ce qui est intéressant, écoute, je sais pas si Bob Murray avait pensé à ça. Je suis pas sûr qu'il avait pensé à ça, mais tu sais, c'est intéressant qu'un Québécois accède à un haut niveau décisionnel dans la Ligue nationale en cette fête de la Saint-Jean-Baptiste. Je trouve ça, c'est sûr que les Ducks d'Anaheim n'ont pas pensé à ça, Jérémy, mais moi, je trouve ça intéressant parce que à chaque fois qu'un gars de chez nous gravit les échelons comme ça, puis obtient une chance d'aller dans les hautes sphères décisionnelles de la Ligue nationale, ben qu'est-ce que ça veut dire, Jérémy? Ça veut dire des portes ouvertes pour d'autres gars de chez nous.
Exact.
Et là, je suis pas en train de dire que Martin Madden Jr. est obligé de proposer des candidats québécois, mais tu sais, ils vont certainement le faire quand viendra le temps d'évaluer du personnel puis d'embaucher des gens. Bob Murray est là depuis longtemps. Martin Madden, lui, a monté les échelons dans l'organisation des Ducks comme dépisteur, ensuite comme recruteur-chef. Il a travaillé avec les Rangers, une organisation vraiment prestigieuse. Il était là en Caroline quand les Hurricanes, il était dans l'organisation quand les Hurricanes ont gagné la Coupe en 2006. Puis avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'était avec les Moussads d'Halifax, qui ont souvent été une formation gagnante, que Martin a fait son école du hockey majeur. Puis il est allé à l'école en plus. Puis ça me permet aussi de te dire, Jérémy, que Madden Junior s'inscrit un peu dans cette mouvance, là, dans cette nouvelle, les hommes de hockey de nouvelle génération. Certains encore sont d'anciens joueurs, mais je te ferai remarquer que les anciens joueurs vont même étudier avant d'obtenir des postes décisionnels. Et Madden Junior, lui, quand même, est allé aux études commerciales, au HEC. Alors, tu sais, c'est une tendance maintenant. Les dirigeants d'entreprises de hockey professionnels sont aussi des gens qui sont formés pour administrer, parce que c'est beau, ça, un directeur général, ça fait des échanges, ça négocie avec des agents, mais ça fait beaucoup d'administration. Et je pense que les exigences d'aujourd'hui font en sorte que Martin Madden, en plus d'avoir appris à sillonner les arénas juniors un peu partout, puis ensuite professionnels, d'avoir donc étudié au HEC, là, ça faisait de lui un candidat assez complet pour obtenir un poste d'importance comme celui d'adjoint. Et Bob Murray, Jérémy, je termine là-dessus, Bob Murray en a probablement un peu moins long à faire qu'il en a fait actuellement dans le hockey. Là, je suis pas en train de le pousser à la porte quand je dis ça, là, mais c'est un gars qui est là depuis longtemps. Alors, tu sais, je pense que Martin est en très bonne position dans cette organisation-là, derrière un directeur général là, qui a passé plusieurs années au même poste.
Dis-moi, Martin, écoute, on souhaite de malheur à personne. Sincèrement,
non, non.
On souhaite que tout le monde soit heureux dans la vie. Puis tu sais, c'est une belle journée aujourd'hui. C'est le début des festivités de la fête nationale. On souhaite de malheur à personne. Sauf que, peut-être, je sais pas quand, peut-être dans quelques années, je regarde Martin Madden Jr. et je me dis, est-ce que ça peut être un candidat intéressant pour le poste de directeur général chez les Canadiens de Montréal?
C'est sûr qu'il peut être un candidat intéressant. Puis là, ben, prêtons-nous pas d'intention
non, pas du
ce
tout.
Soir, là, mais on fait seulement discuter de la possibilité de voir un gars de chez nous qui est maintenant près des hautes sphères décisionnelles et qui aura davantage d'expérience à un moment donné quand le temps des décisions viendront à Montréal. C'est pas une place facile à Montréal. Puis t'es mieux d'aller apprendre ailleurs, puis d'aller chercher de l'expérience ailleurs avant de venir travailler à Montréal. Alors effectivement, je pense que Martin Madden Jr. s'inscrit dans une génération là pour qui les portes s'ouvrent actuellement. Alors tu sais, les portes pourraient s'ouvrir à Montréal, on ne sait jamais. mais les portes pourraient s'ouvrir aussi à Anaheim, Jérémy. On sait ce qui est arrivé avec Julien Brisebois. D'ailleurs, Julien Brisebois était avocat de formation. Lui est passé un peu par la convention collective, la Ligue nationale, par un bureau d'avocats qui avait des mandats de la Ligue nationale, des mandats légaux pour aboutir chez le Canadien ensuite. Ils ont un parcours un peu semblable. Ce que je veux dire, c'est que Julien, lui, a atteint les hautes sphères du hockey d'abord en passant par le droit, tandis que Martin Madden, lui, a atteint les hautes sphères du hockey et dans les hautes sphères de la Ligue nationale maintenant depuis quelques semaines, là, en ayant travaillé à la base, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, en ayant complété des études là, qui font en sorte qu'il a un CV bien garni. Alors, il y a un bon CV pour Anaheim, il y a un bon CV pour Montréal, puis il peut avoir un bon CV pour beaucoup d'organisations qui sont à la recherche de directeurs généraux là, quand vient le temps de décision. On a vu ce qui est arrivé à Buffalo, là, tu sais. Un coup de balai, là, puis whoops, on a besoin d'embaucher des gens.
Buffalo, Martin, Buffalo, un coup de balai, puis il y en a 22 de parties.
Ben oui,
c'est vrai, c'est 22.
Oui, tu sais, alors, c'est sûr que, puis je parlais des années d'expérience de Bob Murray, ben tu sais, éventuellement, il va avoir un changement de garde au poste de directeur général, tranquillement, pas vite. Là, on voit Kevin Adams qui arrive, Kyle Dubas à Toronto. Il y a une nouvelle génération et Madden fait partie de cette nouvelle génération. Il n'a pas encore le titre de directeur général, mais éventuellement, il pourrait être un candidat parce que lui va avoir passé par toutes les étapes.
Ben, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il apprend à la bonne place parce qu'il nous a dit tantôt, tu te souviens que Bob Murray a dit, il n'y a pas longtemps, dans un point de presse, un bilan de fin d'année, les excuses, ça suffit, puis là, il faut faire les séries. Ça, tu sais, c'est fini, les excuses. Il nous a dit tantôt, Bob Murray n'est pas patient de nature. Quand ça fait deux ans que tu fais pas les séries, il faut que ça change. Ça, c'est une bonne chose, ça.
Il y a une pression financière sur les hommes de hockey des Ducks d'Anaheim, Jérémy. Parce que quand l'équipe va pas en série, quand l'équipe ne gagne pas à Anaheim, les gradins sont vides. C'est une équipe qui obtient beaucoup de revenus quand elle a du succès. Elle en a eu du succès dans le passé. C'est une équipe qui a déjà gagné la Coupe Stanley, mais ça fait déjà quand même un bout de temps. Ils ont eu des joueurs étoiles, des gars comme Niedermayer, Jean-Sébastien Giguère. Il est passé des gros noms là-bas. Alors, les gens ont soif. C'est sûr que Martin t'a dit tout à l'heure qu'il y avait comme un espace entre les jeunes et les vétérans. Mmh. Ça te fait-tu penser à quelque chose, ça?
Je sais pas, hein?
Écoute, tu sais, pas loin du studio où t'animes actuellement, là. Tu sais, c'est pas très compliqué, Jérémy. Les Ducks sont dans une espèce de transition avec un gars comme Getzlaf, qui a été encore le leader de l'équipe, mais qui, tranquillement, pas vite, est peut-être un peu à bout de souffle, qui est rendu là vraiment à la fin de sa carrière. Ils ont un gardien de but très solide. Je pense que Gibson est un des bons gardiens de la Ligue. On le voit pas souvent dans ce fuseau horaire-ci, là, mais c'est un gars solide. Mais entre les deux, là, on est à rajeunir l'équipe. Ils ont une défensive assez intéressante, là, mais on a eu de la difficulté à obtenir des performances régulières de cette équipe-là. Alors, ils sont en transition. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de travail à faire. Les derniers repêchages auxquels a participé activement Madden Junior sont importants parce que les Comtois et compagnie se verront ouvrir des portes. Espérons qu'ils pourront mettre les pieds dedans et s'en servir pour graduer rapidement dans la Ligue nationale. Les Ducks en ont besoin de ce espèce de mouvement de rajeunissement qui doit se continuer. Et le prochain repêchage où là, les Ducks sont exclus des séries. Et vendredi, on va savoir où ils vont se trouver. Là, ils ont quand même un petit pourcent, quelques petits pourcents de chance de repêcher Lafrenière. Mais certainement, là, avec un top 8, ils pourraient ramasser un bon joueur. Alors là encore, le mandat de Madden Junior, qui est pas seulement un mandat d'administration, mais aussi un mandat de recrutement. Là, je pense qu'on l'éloignera pas du recrutement. C'est ce que j'ai cru comprendre.
Exact.
Alors, tu sais, je pense que son input là et son travail va être aussi très important pour ce repêchage-ci.
Ben justement, poursuivons sur le repêchage. C'est vendredi que ça se passera, la loterie.
La loterie.
je tiens à expliquer aux gens encore une fois, là, il y a les formations, 7 formations qui ne font pas partie des séries de fin de saison présentement. Les 7 formations, vous verrez leur nom pour avoir la possibilité de remporter le premier, le deuxième et le troisième choix.
Ouais.
Les autres formations qui ne seront pas nommées, ils seront par des lettres. S'il y a une des lettres qui gagne 1, 2, 3, il y aura un deuxième repêchage qui sera après la ronde de qualification. Bon,
c'est ça.
J'ai pas trop mélangé le monde, là, c'est correct,
non,
Martin?
Non, c'est très bien, Jérémy.
Okay.
Dans le fond, là, c'est ce qu'il faut juste comprendre, c'est quand on va faire le tirage au sort des 3 premiers, là, s'il y a une des équipes, s'il y a une des 24 équipes qui participent aux séries qui se glissent là-dedans, on va refaire le tirage au sort après la première ronde. C'est ça qu'il faut comprendre.
Okay.
Mais si parmi les 7 équipes exclues des séries, là, ce sont ces équipes-là qui mettent la main sur les 3 premières positions, il n'y en aura donc pas de deuxième vague de tirage au sort. À ce moment-là, on va y aller avec les 15 équipes au pourcentage des points. Alors, tu sais, le jeune Lafrenière a de très bonnes chances de savoir vendredi pour qui il jouera, par qui il sera repêché, parce que honnêtement, Jérémy, là, les chances des Sénateurs d'Ottawa sont excellentes parce qu'ils ont leur propre pourcentage, mais ils ont aussi la carte qui appartenait aux Sharks de San Jose et qu'ils ont eu en retour d'Eric Karlsson. Alors, tu sais, la combinaison
au
des
total,
Sénateurs
d'Ottawa... Au
total,
ils ont plus de chances que les Sharks de San Jose que les Red Wings de Détroit.
Que les Red Wings de Détroit. Les Red Wings de Détroit sont à près de 20%, là, c'est 18,5. Mais tu fais bien de le mentionner, là, la combinaison des deux. Là. Alors, c'est vraiment entre ces deux équipes-là que ça va se décider. Je parlerai pas d'injustice parce que c'est comme ça. Mais vraiment, là, je serais, tu sais, on serait tous contents là, que le Canadien se glisse puis qu'il y aurait un miracle, là, mais c'est très peu de chances que ça arrive. Là. Après avoir dit ça, là, si ça allait au mérite, là, mettez bien le mot mérite entre guillemets, là, mais on a créé une loterie pour faire en sorte que ceux qui finissent derniers ne soient pas désavantagés et obtiennent encore des possibilités intéressantes d'avoir un premier choix. En ce sens-là, il y aurait une justice en ce bas monde si les Sénateurs d'Ottawa ou les Red Wings de Détroit obtenaient ce premier choix.
Ah, clairement. Maintenant, la question, tu as dit Alexis Lafrenière sera vendredi, où il jouera, dans quelle organisation?
En principe,
on espère. Il y a de fortes chances. On peut imaginer qu'Alexis Lafrenière, vendredi, sera dans quelle organisation? Il évoluera dans la Ligue nationale de hockey. Maintenant, la question, c'est quand Alexis Lafrenière va évoluer dans la Ligue nationale de hockey? Parce qu'il n'y a rien de précis pour un retour au jeu pour la prochaine saison. La question maintenant, qu'est-ce que ces kids-là vont faire en attendant?
Il y a beaucoup d'incertitudes, Jérémy. Il y a beaucoup d'incertitudes parce que les ligues canadiennes juniors, que ce soit au Québec, en Ontario ou dans l'Ouest, ne savent pas trop où ils s'en vont actuellement. Gilles Courteau a un calendrier. Il va travailler très fort pour réaliser ses ambitions de jouer cet automne, tard cet automne. C'est la même chose en Ontario. On se souvient là, des conversations qu'on a eues avec des gens qu'on connaît bien là-bas. Quand la manne passe dans le junior, tu sais, quand tu arrives au bout de ton cycle, c'est important de pouvoir récolter, pas seulement récolter des victoires, puis peut-être récolter une Coupe Memorial, mais c'est important de récolter des dividendes financiers, parce que quand tu fais un cycle de 4 ans dans le junior, là, c'est de l'investissement que tu fais. Tu sais, je pense à l'équipe de Sherbrooke, l'équipe de Jocelyn Thibault. Ils étaient rendus là. Tu sais, ils ont travaillé fort à Sherbrooke pour bien repêcher, bien développer, arriver à terme. Malheureusement, ça n'arrivera pas cette année pour ces gars-là. Les 67 d'Ottawa également, dans l'Ouest aussi, il y a des équipes qui sont dans ces réalités-là. Alors, s'ils sont capables de jouer cet automne, il va y avoir des options. Il va y avoir des options pour les jeunes top prospects comme Alexis Lafrenière et quelques autres. Alors, tu sais, si la Ligue nationale ne débute pas tout de suite ses activités, je pense pas que ça va être une perte de temps pour Alexis Lafrenière de continuer un petit bout avec l'Océanique de Rimouski. Même chose pour les meilleurs prospects, que ce soit de l'Ontario ou de l'Ouest. Les Européens, c'est pas un gros problème parce que la plupart des meilleurs prospects suédois, finlandais jouent déjà dans des ligues professionnelles. Okay. À leur jeune âge, ils jouent déjà dans des ligues où ils peuvent continuer de jouer en attendant. On va les garder, puis avec le grand sourire à part ça, on va les faire jouer. Il y a de l'incertitude également pour la NCAA. Est-ce que ces institutions scolaires pourront jouer sans spectateurs? Okay. Est-ce que ça va être possible pour eux de jouer sans spectateurs? C'est tout ça qui est dans les les prospects.
Moi, je me demande, dans le cas de... Prenons exemple Marco Rossi. Tantôt, j'en parlais avec André Tourigny. Tu sais, si le gars, exemple, ça commence pas, je sais pas s'il va être immédiatement dans la Ligue nationale, mais dans le cas de la Frenière, il y a des fortes chances. Si ça commence pas immédiatement, est-ce que des joueurs, les meilleurs joueurs, Lafrenière et tout ça, est-ce que eux pourraient être tentés d'aller faire un tour du côté de l'Europe en attendant que la Ligue nationale débute?
Absolument. La Finlande et la Suède ne seront pas très portés sur ces dossiers-là pour leur ligue élite, parce que eux ils vont garder leur monde, il n'y a pas de problème là. Mais il y a des équipes de Suisse qui vont être intéressées, je pense à Lafrenière. Lafrenière, c'est un francophone. La ligue élite là-bas, la ligue majeure en Suisse là, a déjà fait des choses comme ça pour Austin Matthews, pour une coupe de gars. Tu sais, on en a accueilli de jeunes prospects pour une coupe de semaines, puis après ça on les a renvoyés dans la Ligue nationale. Pour eux, c'est un bon coup marketing, Jérémy. Et il y a des équipes également en Allemagne qui vont peut-être être intéressées à offrir des opportunités à des jeunes canadiens, nord-américains qui n'auront pas de place s'ils n'ont pas de place pour jouer dans leur ligue. Parce que faut pas oublier là que il y a une question de droit là-dedans. Tu sais, Alexis Lafrenière là, si l'Océanique de Rimouski joue, Jérémy, puis que son équipe dans la Ligue nationale, Détroit, Ottawa, Los Angeles, nommez-les tous là, il n'y aura pas beaucoup d'options. Si l'Océanique joue, il va falloir qu'il joue pour l'Océanique, parce que ses droits juniors continuent d'appartenir à la Ligue canadienne et aussi à l'Océanique de Rimouski.
À moins qu'il y ait négociation,
mais tu sais, ça peut être difficile à passer. Tu sais, honnêtement, là, si Lafrenière disait, moi, je tourne le dos à la LHJMQ, puis je m'en vais jouer en Suisse, ou je m'en vais jouer en Allemagne, ou je m'en vais jouer n'importe où, tu sais, nommer la KHL, si vous voulez, là, ça passerait moins bien.
Mais André Tourigny a dit tantôt, dans le cas de Marco Rossi, il a dit, tu sais, je suis pas convaincu que des clubs en Suisse qui seraient tentés juste pour un 2-3 mois de prendre un gars comme Lafrenière ou Rossi, tu sais, il dit, c'est pas Sidney Crosby. Il dit, ces gars-là peuvent pas tout changer à eux seuls. Peut-être qu'il y en a qui seraient tentés, mais il dit, ça me surprendrait qu'ils soient tentés à court terme de prendre un joueur comme ça.
Peut-être pas pour Rossi, je suis d'accord avec André là-dessus, mais pour Lafrenière, s'il n'y a pas d'activité dans la Ligue canadienne junior, le premier choix, le tout premier choix de l'encamp amateur de la Ligue nationale qui aurait lieu au mois d'octobre, là, serait disponible. Je t'annonce qu'il y a quelques clubs européens qui vont appeler son agent.
C'est clair. Écoute, Martin, il nous reste à peine quelques minutes. Juste te dire, on vient d'avoir une information concernant le baseball majeur. Donc, l'Association des joueurs du baseball majeur confirme s'être entendue avec le baseball majeur sur tous les enjeux, incluant protocole sanitaire. Donc, attention, j'ai les dates ici. J'avais ça tout à l'heure. On parle d'un retour au jeu pour le baseball majeur du 24 juillet et retour au camp d'entraînement le 1er juillet. Donc, mercredi prochain, retour camp d'entraînement, saison débutant le 24 juillet. Évidemment, dépendamment de la santé publique, là, à moins qu'il y ait un cas majeur, puis on n'est pas capable d'avoir de baseball, mais il y aurait entente. Toujours bien ça de fait, Martin.
Tant mieux. Quelle perte de temps monumentale. Je pense que le baseball souffrait, sur le plan image, le baseball souffrait énormément. Tant mieux si des gens raisonnables ont parlé.
Demain, on va nommer Martin McGuire, on va nommer ceux qui auront accès au Temple de la renommée du hockey, la classe de 2020. Tout ça pointe dans le sens de Jerome Higgins, là, selon moi.
Écoute, il y a d'excellents candidats qui en sont à une première année d'éligibilité. D'autres sont là depuis quelques temps. Jerome Iginla devrait être de cette cuvée-là. Iginla, lui, a joué 20 saisons dans la Ligue nationale. Son pedigree est vraiment impressionnant. Son passage marquant avec les Flames de Calgary, sans équivoque, 1300 points. Écoute, c'est un gars qui a gagné le Maurice Richard, il a gagné le Hart Trophy. Ross. Il a gagné le Art Ross deux fois. Il a gagné la médaille d'or aux Jeux de 2002 et à ceux de 2010. Il a été champion du monde. Il a gagné l'or avec le Canada au championnat du monde de hockey junior en 96. Si lui, entre pas autant de la renommée, Jérémy, sont aussi bien de fermer les portes, il n'y a plus personne qui va entrer dans cet édifice-là. Non, je blague, là, mais honnêtement, Jerome Iginla, puis en plus, Iginla est un excellent leader. C'est un bonhomme respectueux. Il n'a que des amis dans le milieu de la Ligue nationale. Beaucoup de monde respecte Jerome Iginla. Je vois pas d'obstruction à son entrée au Temple de la Renommée cette année. Daniel Alfredson, qui est illégible depuis 2017, Jérémy, pour moi, Alfredson, même s'il n'a pas un pedigree aussi impressionnant que Iginla, est quand même dans la même catégorie. La catégorie des grands leaders, une personnalité forte, mais en même temps, un homme extrêmement respectueux, respecté de ses pairs, respecté de ses patrons. Il a été le visage des Sénateurs d'Ottawa. Il a joué 1246 parties dans la Ligue nationale en 18 ans. Malheureusement, il n'a pas gagné la Coupe Stanley parce qu'il ne s'est pas trouvé au bon moment, au bon endroit. Il est allé en finale, mais il a tout de même gagné l'argent à Sochi et l'or à Turin en 2006, cette médaille qui avait été littéralement volée à l'équipe du Canada. Tu sais, honnêtement, Jerome Iginla et Daniel Alfredson, pour moi, là, on parle de deux gars, là, excuse l'expression, tricotés dans la même laine. Il y a d'autres candidats là, qui tournent autour cette année. Je pense à Patrick Elhiache. Patrick Elhiache a été régulier comme un métronome tout au long de sa carrière dans la Ligue nationale. Pas un gars flamboyant, mais tellement efficace, Elhiache. C'est un gars qui a marqué beaucoup de buts gagnants dans sa carrière. Des buts gagnants en série pour des victoires en série en prolongation, il y en a 16, Jérémy. Alors, tu sais, ça donne l'idée de ce que Patrick Elhiache a pu accomplir. Celui que j'appelle le vieux Sergei Gonchar, le vieux parce qu'on l'a vu à Montréal à la fin de sa carrière. Quel gentilhomme, mais plus que ça encore, c'est 811 points. Lui, il a une moyenne de 0,7 points par match. C'est vraiment phénoménal pour un défenseur. C'est un candidat intéressant. Puis là, il y a des plus vieux. Je vous en nomme quelques-uns, mais ce sont des gars qui traînent, entre guillemets, là, des candidatures qui traînent depuis déjà quelques années. Doug Wilson, qui est le directeur général des Sharks maintenant, on se souvient de ce défenseur avec un tir foudroyant et la chevelure frisée, là. Alors, pas juste pour sa chevelure, c'est quand même un bon joueur de hockey. 25 ans maintenant qu'il est éligible à entrer au Temple de la Renommée. Est-ce que ce sera son année? Kevin Lowe, qu'on adore ici au Québec et qu'on respecte beaucoup. Kevin Lowe, qui a brillante carrière avec les Oilers, les grandes équipes des Oilers. Il a été un défenseur important, un bon leader. Alexander Mogilny, quel joueur spectaculaire. Lui, ça fait 12 ans qu'il attend d'entrer au Temple de la Renommée. Le gardien de but, Curtis Joseph, c'est une candidature qui est très poussée en Ontario, puis un peu partout, là, moins au Québec, mais un peu plus en Ontario. Tu sais, Martin Brodeur, Patrick Roy sont entrés. Curtis Joseph, Ed Belfour, c'était dans la catégorie juste en dessous des Brodeur, des Roy et compagnie. Est-ce que ce sera son année? Lui, ça a 9 ans qu'il attend. Pierre Turgeon attend depuis 10 ans. Théorine Fleury attend depuis au-delà de 12 ans d'entrer au Temple de la Renommée. Alors, je t'ai nommé un groupe de gars, là, avec le gardien de but Tom Barrasso, qui a gagné la Coupe avec les Pingouins, là. Ça, là, c'est un... Je serais pas surpris, Jérémy, que dans la classe 2020, il y aurait un gars parmi cette cohorte de joueurs qui ont marqué les années 80 et 90, qui attendent depuis un certain temps d'entrer au Temple de la Renommée.
Et pourquoi pas, Martin? Et voilà, et pourquoi pas? Et juste en passant, Doug Wilson a toujours cette belle chevelure, même en 2020.
Oui, mais son gris un peu plus, parce que, tu sais, comme directeur général, des fois, là, garder les cheveux foncés, là, c'est pas mal difficile.
Je sais pas, parlez-en à Marc Bergevin. Martin, toujours un plaisir. Je te souhaite de bonnes festivités de la Saint-Jean-Baptiste.
Bonne Saint-Jean tout le monde.
Et on se donne rendez-vous. On se parlera jeudi et vendredi. Rendez-vous pour la loterie de la Ligue nationale de hockey. Merci beaucoup, Martin.
Certainement. Bon week-end. Bon congé à tout le monde.